Alors, on parle maintenant du système de santé. 2024, c'est l'année où on a vu la mise en place de Santé Québec. Est-ce que c'est la solution miracle qu'on attendait, qu'on espérait? Seul le temps le dira. Mais surtout, c'est quoi le maudit problème avec le système de santé? Où c'est que ça bloque? On va en parler sur trois blocs avec M. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé et qui est collaborateur à l'émission. Premièrement, je vais vous dire, messieurs, arrivez avec des exemples concrets, parce que moi, ça fait des années que je fais du commentariat, et je pense qu'il n'y a rien de plus complexe et de plus difficile à comprendre que le système de santé. C'est hyper difficile à comprendre, donc on va essayer d'être concret pour aider les gens à s'y retrouver, parce que il y a plein de labyrinthes et d'arcanes et de différentes groupes là-dedans. Alors, ben, on commence avec Paul Brunet. Moi, il y a un chirurgien, celui qui m'a opéré pour ma prostate, qui me dit le gros problème avec le système de santé, c'est que les gens vivent de plus en plus vieux, puis qu'ils sont malades de plus en plus longtemps. Que le système de santé a été fait à l'époque où les gens mouraient beaucoup plus jeunes, puis que ça fait une énorme pression sur le système. Est-ce que c'est un des problèmes?
Je pense que oui, mais il y a d'autres difficultés que le réseau en cours et qui ne sont pas uniquement le fait que les gens vieillissent. On a même su qu'il y avait les nouveaux arrivants qui arrivaient. Hein. Il y a 700 personnes de plus par jour dans les urgences depuis un an qu'il n'y en a jamais eu avant. Malgré le gap, malgré le 8-1-1, malgré la multiplication des possibilités de voir un professionnel, pas juste un médecin, est-ce qu'il y a juste ça qui est en cause? Je ne suis pas certain.
Les coûts aussi des soins de santé qui ont explosé, est-ce que c'est des problèmes, ça aussi?
Ben oui, par définition. Le premier problème du système de santé, c'est qu'on essaie de tout faire en sachant qu'on n'a pas les moyens de tout faire. Ça, c'est le premier problème.
Donc, il va falloir faire des choix.
Va arriver un jour, et je pense que le jour est arrivé, qu'est-ce qu'on entend le plus des commentateurs, des journalistes, des politiciens, tout le monde? Bien, le budget de la santé ne peut pas être le budget unique du gouvernement.
Ouais.
C'est ce qu'on dit tout le temps. À partir du moment où on dit ça, ça veut dire qu'il y a un enjeu budgétaire. Et quand on a un enjeu budgétaire, comme dans n'importe quoi dans la vie, dans notre vie à nous, là, au quotidien, là, on est ici dans le temps des fêtes. Là. Après le temps des fêtes, Richard, qu'est-ce qu'on va faire dans les familles du Québec? On va regarder qu'est-ce qu'on fait aux vacances l'année prochaine. On va-tu ici? Les enfants vont-tu dans le camp de vacances? Qu'est-ce qu'on va faire?
Puis on regarde le budget.
Exactement.
Qu'est-ce qu'on peut se payer?
Et là, on décide ce qu'on peut se payer. Dans le système de santé, on ne fait jamais ça. Alors, si on commençait par définir le panier de services qu'on va se payer, qu'on peut se payer, si après on s'occupait de l'exécuter, de livrer la marchandise et de mesurer pour avoir une rétroaction, ça serait différent. Là, on a de la politique. La politique, elle, vise à ce que la population soit satisfaite sans qu'on leur dise qu'on n'est pas capable de tout faire. Le résultat de ça, c'est qu'on fait beaucoup de choses moyennement ou mal, parfois très bien, mais on ne fait pas tout correctement.
Mais Paul Brunet, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, par exemple, qui a une maladie orpheline, une maladie très, très, très rare, là, puis qui a besoin d'un médicament là, qui coûte $1 million, là, est-ce qu'on peut lui dire, ben, je m'excuse, mais là, on ne peut pas vous donner ça? Ou alors, au monsieur de 82 ans, qui est à sa troisième crise cardiaque, regardez, on ne dépassera pas de l'argent pour faire vivre 2 mois de plus. Là. Est-ce qu'on peut dire ça à la population? C'est manqué de cœur.
Avant de dire ça sur ces choix-là, que M. Barrette vient de dire qu'on devait faire, est-ce qu'on peut voir comment on fait tout ça? Pourquoi il y a entre 3 et 4 fois plus de bureaucrates au Québec par rapport à la Suède qui compte à peu près la même population? Y a-t-il moyen de regarder ça? Personne ne l'a regardé à date, en tout cas aussi longtemps, depuis que je suis porte-parole.
Il y a trop de chefs passés dans les
îles. Il y a trop de bureaucratie. Il y a la loi sur la santé contenait plein d'exemples. La nouvelle loi n'a pas fait bien mieux. On a embauché 4000 cadres de plus depuis 5 ans dans le réseau de la santé. Le système de santé va-tu mieux?
Bien, c'est ça que ça donne, d'embaucher des cadres, des bureaucrates.
Ça, c'est un argument, puis c'est pas un commentaire personnalisé, là, c'est pas ça du tout. Là. Deux choses. Un, ça a déjà été regardé. Moi, je me souviens, plus jeune, dans d'autres fonctions, avant la politique, je publiais des textes qui faisaient la démonstration, puis ça a même été publié dans des grandes revues de pairs, où on avait déterminé qu'au Canada et au Québec, on avait une surreprésentation des gestionnaires okay. par rapport à d'autres organisations comparables, comme mettons aux États-Unis. C'est un fait.
Trop de chefs, pas assez d'indiens.
Exactement. Maintenant, ce qui me fait rire là-dedans, c'est que je ne vais pas revenir sur ce que moi j'ai fait personnellement, mais je veux juste rappeler que moi j'en ai coupé des cadres. Ils ont tous été réengagés. Et là, aujourd'hui, on dit, comme on vient de le dire, bien là, il y en a trop, on en a réengagé. À un moment donné, il faudrait savoir exactement ce qu'on veut, là. Alors ça, ça me ramène à la case départ. C'est quoi qu'on veut faire? Comment on peut le faire? Et ça, on ne le fait pas. Jamais, jamais, jamais. Il y en a trop de cadres, parfait. Il y a trop de cadres. Si c'est ça la réalité, là, on coupe où? On coupe où, comment, puis comment ça va fonctionner après. Cette analyse-là ne se fait pas.
Bien, trop de cadres, pas assez de médecins? Est-ce que...
Je vous donne un exemple.
Le CUSUM vient d'adopter sa politique pour contrer la maltraitance depuis la nouvelle loi qui est amendée. Des experts du CUSUM préparent ça prend des mois. Finalement, le CUSUM l'adopte. Attention, c'est pas en vigueur. On renvoie ça à Québec pour être regardé par d'autres experts pour voir si c'était correct. Ça s'appelle là, de la double, hein? Du double examen inutile. On dit aux experts du CUSUM, t'adoptes ta politique, puis si elle n'est pas bonne, puis t'as mal fait ta job, on va te sacrer dehors. Pourquoi on est obligé de dupliquer? Ça s'appelle ça de la concentration de l'autorité où le ministère veut regarder à peu près tout, malgré le fait qu'il ait dit aux hôpitaux, vérifiez vos affaires. Ça, là, j'ai une centaine d'exemples, autant dans la loi sur la santé que l'actuelle loi, malheureusement, n'a pas fait de ménage, où on passe notre temps, les comités locaux de médecins, font des affaires, ça s'en va au comité régional, puis là, ça revient.
La on maison, la maison de... des fous, là.
Non, c'est pas la maison des fous. C'est pas la maison des fous, ça. C'est facile de dire que c'est la maison des fous. Ça, c'est facile, là. Devant n'importe quoi de public, là, le premier réflexe, c'est de dire c'est la maison des fous. Bon. On va revenir à la case départ. Puis on la vit au moment où on se parle, la case départ. On la vit, là. Il y a Santé Québec. Qu'on soit d'accord ou non avec Santé Québec, le ministre actuel, il a été catégorique, puis je pense que le premier ministre pense comme ça. On a un gouvernement de comptables. Leur première consigne, c'est respecter le budget. Parfait. Respecter le budget. Hein? Alors, aujourd'hui, là, au moment où on se parle, là, on est ici en fin d'année, là, hein? On est dans une émission de fin d'année. Qu'est-ce qu'on a eu dans les trois dernières semaines? On a eu une décision de Santé Québec qui a été prise uniquement pour des raisons de rééquilibre budgétaire. Ils ont une commande de couper 1,5 milliard d'ici le 31 mars. Une de leurs premières décisions, on les veut autonomes. Bien, le ministre, dans deux semaines, les a rabrouillés en leur disant, bien, vous ne pouvez pas couper là. Pourtant, eux autres, là, si on leur pose la question, ils vont vous dire, parce que je leur ai posé la question, oui, mais on a réévalué l'utilité des chèques emploi-service pour telle personne. On a constaté que cette dépense-là n'était pas efficace. Alors, ou bien ils ont raison, ou bien ils ont tort, mais c'est exactement ce qu'ils ont fait, là. Oui. Ils ont été autonomes, ils ont pris une décision, et comme c'est rendu dans les journaux, le ministre demande à son sous-ministre de rabrouiller Santé-Québec, coupe pas. Mais ben, regarde, c'est exactement ça. Alors là, si on veut avoir, je reviens à ma case départ, si on, c'est pas la mammouth, puis ceci, cela, il y a des gens qui ont comme consigne de respecter le budget, qui prennent des décisions, puis que nous autres, on les fait. Ben, c'est quoi qu'on veut, là, exactement, là? Fait que là, reprenons notre conversation. Oui. Il y a trop de cadres. Il n'y a pas assez de cadres. On demande à un expert. Il demande à l'autre. On vit exactement, là, ce qu'on reproche et ça recommence. Alors, je termine là-dessus. Richard, on peut-tu définir ce qu'on veut donner et dire à la population, voici ce qu'on va vous donner, mais on va bien le faire. Alors que là, ben, c'est vrai, des fois, c'est tout coche.
Santé Québec, ça fait-tu partie de la solution du problème? C'est-tu une autre structure qu'on a rajoutée dans la structure qui est déjà énorme?
Moi, je mets mon espoir dans Santé Québec parce que ça ne peut pas aller plus mal que ça. Il n'y a jamais eu autant de monde qui attend pour tout.
Ah, mais ça, c'est un autre
chirurgie, affaire. Soins de santé, soins à domicile, en santé mentale, si vous le souhaitez. Chirurgie, on a besoin de le nommer. Il y a plus ou moins 200-300 000 personnes qui attendent quelque part pour avoir un rendez-vous,
oui,
pour être vues.
Pourquoi?
Ce que je dis, c'est qu'avant de dire qu'est-ce qu'on peut faire, on peut-tu régler la question de comment on le fait, puis pourquoi il y a autant de monde dans les bureaux puis dans la bureaucratie.
Oui, mais...
Ça, là, avant de venir me dire à moi, les patients, il y a des limites. on va limiter ce qu'on est en train de faire au niveau de la bureaucratie. Il me semble que c'est le B.A.B.A. de toute analyse. Et de couper 3,65% across the board, c'est la façon la plus simple et la plus bête. D'ailleurs, je n'ai pas des bonnes nouvelles pour vous parce que Santé Québec lui-même n'est même pas autonome, M. Barrette. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compte à rendre. Il n'y a que des fonctions dans la loi qui l'a constitué. Encore une fois, on a affaire à des patentes où personne n'est imputable. C'est bon. Triste, hein?
Mais alors... C'est un bouclier dans lequel, derrière
c'est
lequel...
Santé Québec, c'est un bouclier émissaire.
Un bouclier derrière lequel les politiciens vont se cacher.
Oui, puis là, ça, là... Oui, mais deux semaines après, le bouclier il a été défait parce qu'on les a rabroués. Prenons... C'est pas une question... Reprenons la problématique des gens qui attendent pour se faire opérer. La problématique à la case départ n'est pas une question de main-d'œuvre. Il manque pas d'infirmière. Il manque pas de chirurgien. Il manque du temps opératoire. Hein? Ça, c'est la réalité dans laquelle on vit. Mais elle est comment, la réalité?
Et pourquoi il manque du temps opératoire? Ben,
remettons les choses en perspective. Dans la dernière décennie, là, la population du Québec aura augmenté d'à peu près 1 million de personnes par les naissances, l'immigration, peu importe. 1 million. Je le dis à répétition. Trouvez-moi sur la planète, dans le monde occidental, une ville de 1 million de personnes qui n'a pas au moins un hôpital. La capitale nationale, là, Québec, sans Lévis, juste Québec, c'est un peu moins d'un million de personnes. Il y a 5 hôpitaux de 500 à 600 lits. Nous, on a augmenté la population. Il n'y a pas un lit de courte durée, qui sont tous nécessaires pour la chirurgie, la plupart du temps, qui a été mis en opération. Alors, là, à un moment donné, c'est un gouvernement qui gère par budget, et je dis tous les gouvernements, là, j'inclus celui dont j'ai fait partie, qui ne suit pas l'évolution des besoins, bien ça, ça fait des listes d'attente. Rajouter à ça la problématique de l'organisation de la main-d'œuvre dans l'existant, c'est la tempête parfaite. Je termine là-dessus. Quel est le groupe dans la population au Canada qui va accepter d'augmenter les impôts pour avoir plus de financement?
Personne. Là, la plupart des gens disent hey, on paye suffisamment.
Voilà.
Oui. Puis là, à un moment donné, quand on a une piscine, puis la piscine, elle a un trou dedans, on a beau mettre de l'eau, elle ne se remplit pas. À un moment donné, là, c'est pas une question de manque d'argent, il me semble.
Il y a un genre, j'ai entendu des économistes, dont un qui est un ami personnel, dire c'est effrayant, on devrait arrêter, puis dire les médicaments à 1 million. Là. Mais à un moment donné, sa mère est tombée gravement malade d'une maladie rare, puis il avait besoin d'un médicament. Oui. Ah, là, c'était plus pareil.
Oui, c'est voilà.
L'expérience, la condition humaine là, fait que des fois, on change d'avis. C'est qui qu'on coupe? Quand on le coupe? L'INES avait décidé il y a quelques années qu'en haut de 70 ans, quand quelqu'un était affligé d'un cancer quelconque, qu'on n'approuverait plus l'aspect thérapeutique parce qu'économiquement, ça ne valait pas la peine. On a réuni des gens de plus de 70 ans, une qui faisait un PhD sur les systèmes de santé comparés, un autre qui était conseiller municipal, puis on disait, ces gens-là ne sont pas actifs économiquement, ça ne vaut pas la peine. On coupe où et pour qui? La question est posée. Mais moi, avant de couper, je veux savoir comment on le fait parce que je pense qu'on dépense beaucoup trop inutilement. 80 % des no-shows dans les chirurgies sont dus à l'hôpital ou au médecin, pas au patient. Le patient est responsable de 20 % des no-shows. On peut-tu régler ça avant de taper sur la tête des patients?
Les no-shows en chirurgie, c'est quelque chose qui est marginal pour ce qui est des patients non opérés.
Non, mais avant de dire, là, toi, on ne te soignera pas, là, parce que, bon,
ben,
est-ce qu'on peut faire le ménage dans la machine?
Ben.
Parce que la personne va dire, attends une minute, c'est-tu parce que vraiment tu manques d'argent que tu ne peux pas me soigner ou c'est parce que tu dépenses d'argent inutilement à des postes qui
n'ont
strictement rien?
Il n'y a pas et il n'y aura jamais dans aucun système un facteur unique responsable d'un dysfonctionnement dans le système. Ça n'existe pas. C'est toujours une combinaison de facteurs. Toujours. Mais quand on regarde macroscopiquement l'affaire, dans l'ensemble de l'œuvre, de ce tableau-là, il en reste pas moins qu'on doit, à la case départ, se poser une question. Même si le système marche parfaitement, on est heureux, là, on a juste des PhD en n'importe quoi, dans n'importe quelle position, les préposés, les secrétaires, les réceptionnistes, les docteurs, c'est tout des génies. Ben, au moment où on se parle, on n'est pas capable de livrer ce que la population veut. C'est simple de même. Après ça, je suis bien d'accord qu'il y ait des éléments en descendant dans l'échelle qui sont problématiques. Je suis d'accord. Mais à la case départ, là, on n'est pas capable de fournir. Il y a deux raisons pour lesquelles on n'est pas capable de fournir. La première, c'est une question de financement parce que le financement influe les infrastructures, les équipes et ainsi de suite. Après ça, c'est l'organisation de la force de travail qui est sur le terrain. Et là, je dirige mon commentaire vers les professionnels, toutes catégories. Est-ce que nos professionnels, que ce soit des cadres, des infirmières, des médecins, est-ce que tous ces gens-là peuvent faire mieux et plus? On va commencer dans l'ordre. Okay. Plus et mieux, la réponse, c'est oui. Et ça, c'est la question des livrables. Et ça, actuellement, là, on vit dans une société où c'est je, me, moi. Alors, d'un côté, en partant, on n'a pas la capacité. Et ensuite, les joueurs qui embarquent sa patinoire, ils ne jouent pas au maximum de leur capacité.
Parce que là, ce qui est difficile à comprendre pour monsieur et madame tout le monde, là, c'est qu'il y a des belles salles d'opération là,
oui,
qui sont toutes belles et bien équipées.
Oui.
Puis des fois, ils ne servent à rien.
Vous avez raison.
Mais ça, c'est là, on dit tabarnouche, il y a des gens qui attendent des chirurgies. Il y a des salles qui ne servent à rien. Qu'est-ce qui se passe?
Et je me souviens que M. Dubé avait annoncé 20 ou 30 millions exprès pour le temps supplémentaire sur les plateaux pour que le personnel soignant puisse accompagner les médecins faire des opérations. Les gens refusaient de faire du temps supplémentaire.
Ben, c'est ça.
Fait que là, tu sais, si tu l'offres au public puis le public ne veut pas le faire, bien là, ça se peut que tu tournes vers le privé payé par l'État. Et c'est probablement pour ça que les centres médicaux spécialisés font le plus gros de la job. En tout cas, présentement, ils opèrent beaucoup de monde. Et ça, ça vient de M. Couillard, projet de loi 33, où on a autorisé, on a légalisé les cliniques médicales spécialisées pour faire ces jobs-là que le réseau public n'arrive pas à régler.
Alors, un commentaire là-dessus. C'est exact ce qui vient d'être dit. Ça, la loi 33, ça a été mis en place sous Philippe Couillard quand moi, j'étais président des médecins spécialistes. OK? Et ça a été mis en place pour une raison. Le système public n'était pas capable de fournir. Et là, on avait des chirurgiens qui... à l'époque, je connaissais des chirurgiens qui avaient une priorité opératoire par mois. Pas par semaine. Une par mois. Là, à un moment donné, là, 15 ans de formation pour opérer une fois par mois, là, c'est un peu niaiseux. Là. Alors, aujourd'hui, c'est quoi la réalité? Moi, j'étais amusé d'entendre Mme Geneviève Viron, la nouvelle PDG de Santé-Québec, réaliser ce que nous, dans le réseau, on sait depuis toujours. Elle a été surprise, c'est ses mots, de constater qu'il y avait 188 salles d'opération qui ne fonctionnaient pas. Richard, moi, je peux te dire que le CHUM, qui est un hôpital de 4,5 milliards de dollars, le joyau du Québec, à l'époque, l'hôpital le plus moderne sur la planète, c'est un fait, jamais le bloc opératoire, pas un jour, a fonctionné à pleine capacité.
C'est incroyable.
Alors, quand Maître Brunet nous dit le temps supplémentaire, le 20 millions, il a raison. Mais c'était pour payer du supplémentaire, alors que les salles d'opération dont je te parle, c'est de jour qu'elles ne marchent pas. Les 188 salles ne marchent pas de jour parce que les gens disponibles ne veulent pas prendre les postes, ne veulent pas aller là. Et le temps supplémentaire, ben il n'y a pas de temps supplémentaire. En plus, ils ne veulent pas faire le jour.
C'est quoi? C'est les syndicats qui bloquent?
Il y a une ambiance, on va dire.
c'est quoi?
Mais j'ai confiance en Mme Biron, j'ai confiance en Santé Québec, malgré tout. Est-ce que je peux ne pas leur faire confiance? Ça fait 26 ans que je suis porte-parole. Si ça, ça ne marche pas, je ne sais pas ce qu'il va falloir faire. Peut-être faudra-t-il ramener M. Barrette? Je ne sais pas.
Ben, c'est-à-dire
une chose certaine, c'est que présentement, on n'a pas même d'autre choix que de croire au travail de ma... Et il y a une chose qu'elle a dit qu'elle ferait, que je n'ai pas vu faire, moi, dans le réseau de la santé depuis belle lurette, c'est que désormais, elle va étudier les problèmes plutôt que de travailler ses conséquences. Deux exemples. L'île verte. On a blâmé les pompiers alors que des gens grabataires étaient hébergés dans des maisons en bois. On n'aurait jamais dû les héberger là. Alors, on a blâmé les pompiers, on a décidé de gicler toutes les RPA, puis il y en a 300 qui ont fermé. On a-tu aidé à l'hébergement des patients?
Mais
l'autre exemple récent, si vous me permettez.
Bien sûr.
Les jeunes médecins ne veulent pas travailler dans le réseau public, on va les forcer à rester. Mmh. Ça, c'est travailler, c'est la conséquence. Si on travaillait pour un meilleur environnement, une meilleure ambiance dans
pourquoi,
le réseau de la santé.
Pourquoi ils ne veulent pas travailler en public? C'est ça qu'il faut se poser
la
question.
Mais oui, ça, c'est la cause. Mais on travaille ses conséquences parce que politiquement, souvent, c'est plus sexy, ça va plus vite, comme m'avait dit Mme Blais. Paul, on va gicler. Oui, mais ce n'est pas à cause du giclage qui est en cause, c'est le monde qui est aggravataire que vous avez autorisé d'héberger dans une maison faite en bois, elle est verte. Come on! Ça, c'était la cause.
Alors... C'est un très bon exemple. Je l'aime, cet exemple-là, parce qu'il démontre aussi mon propos. Puis c'est pas une question d'avoir raison. C'est un excellent exemple, mais qui démontre mon propos. Moi, j'étais là quand il y a eu l'histoire des gicleurs, là. Quand on a financé les gicleurs. C'était pas une nouvelle, là, ça, l'affaire des gicleurs. Mais ça n'avait pas été fait, peu importe le gouvernement précédent, qu'il soit péquiste libéral, parce que ça coûtait trop cher. Des maisons en bois, ça n'avait pas été mis à niveau parce que ça coûtait trop cher. C'est toujours à la case départ une question de budget. Les gens
savent les problèmes. Là, on ne peut pas payer davantage de taxes d'impôts. Là,
branchons-nous.
On est là.
Mais si on ne veut pas payer plus, il faut à un moment donné faire des choix. Et ce n'est pas le provincial qui est le problème, c'est le fédéral pour le financement. C'est lui qui a la marge de manœuvre. Mais là, c'est là que la politique entre en jeu.
Mais avant de faire des choix, et ouais. Là, je reviens à ce que M. Brunet disait, on peut-tu savoir si on dépense de l'argent inutilement?
Bon, je veux juste revenir...
On peut-tu faire ça?
Je veux juste revenir sur l'argument...
On va demander à Elon Musk de venir puis de faire un audit.
Oui. C'est facile, il va tous les mettre dehors. C'est ça qu'il fait, lui, quand il arrive dans une organisation, il les met dehors. Puis il baisse ses salaires, puis, mais sauf qu'on est au Canada, là, on n'a pas le même environnement social et économique. Mais pour ce qui est des médecins, prenons les exemples des médecins. Moi, j'étais d'accord avec la mesure. Mais il arrive à un moment donné qu'une question de livrable. Moi, là, je ne suis pas un partisan de la CAQ, OK? Mais je sais une chose, Sonia Lebel avait raison de faire, dans sa négociation, de mettre l'emphase sur la flexibilité. Elle avait raison de mettre l'emphase là-dessus parce que les syndicats au Québec sont extrêmement forts.
Rigides.
Et ils nuisent à l'organisation du travail parce que...
Bon.
Aujourd'hui, là, c'est bien clair. Toute l'organisation du travail n'est pas organisée en fonction de l'intérêt du système et donc du patient, mais bien dans l'intérêt de l'individu qui travaille dans le système. Et là, le système, qu'est-ce que tu veux? Ce n'est pas un hasard que le temps supplémentaire obligatoire s'étend de vendredi 4h puis lundi matin 8h.
Ouais.
Alors là, je termine là-dessus. Là, on tombe sur l'enjeu de ce que j'appelle le livrable. Le livrable, c'est, tu sais quoi? C'est simple. Regarde, ton contrat, là, c'est 7 jours, c'est 7-14. Mettons, tu fais 7 jours, puis dans ton 7 jours, là, pas d'affilée, t'as des soirs, t'as des fins de semaine. Ça, c'est un grand
drame. Bon, bien, Gaëtan, ça nous amène à notre prochain bloc. On va prendre une pause, puis en revenant, la question, c'est-tu parce qu'on manque de médecins ou les médecins ne prennent pas suffisamment de patients? En charge, entre autres les médecins de famille. On s'en parle après la pause.
À Cube, c'est la revue d'année de Richard Martineau.
On parle toujours du système de santé avec M. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, et Gaëtan Barrette, ex-ministre de la Santé et collaborateur, bien sûr, à l'émission. Avant de partir, Gaëtan disait un des problèmes, c'est les syndicats qui sont rigides et qui manquent de flexibilité. Est-ce que vous êtes d'accord, M. Brunet?
D'expérience personnelle, j'ai été DG de ville pendant 30 ans. C'était pas les syndicats mes principaux obstacles. C'était la politique et la bureaucratie.
La machine.
Ça, pour moi, ça a été les deux pires obstacles que j'ai rencontrés dans ma vie parce que le politique, des fois, a d'autres objectifs que ce que le bon sens peut avoir. Et là-dessus, j'espère que Mme Biron sera plus loin de la politique pour faire ce qu'elle est supposée de faire. Ce qui m'attriste un peu, c'est que Santé Québec ne soit pas imputable au ministre. Il n'y a pas de reddition de compte, il y a juste des fonctions.
Je vais te donner deux exemples que tout le monde a déjà entendu, mais je vais les répéter. Maître Brunet, il y a quelques instants, faisait référence à Christian Dubé qui avait alloué 20-30 millions pour payer du temps supplémentaire en salle d'opération. C'était pourquoi ça? C'est qu'au Québec, les gens le savent, mais je le rappelle, il y a beaucoup de gens qui se font annuler. Ils ont été à jeun puis la veille. Bon, d'abord, ils ont pris congé. Ils sont rentrés à l'hôpital. Ils ont été à jeun. Puis là, à 2h15 l'après-midi, on les fait venir au bloc opératoire. Ils sont tous préparés. Là. Ils arrivent, puis là, on se dit, ben, on est obligé de retourner. Pourquoi on est obligé de retourner? Parce que dans les blocs opératoires, on sait combien de temps ça prend faire une opération pour tel docteur. Si moi, j'opère, là, les gens savent qu'en moyenne, pour telle opération, on prend tant de temps. Ah, monsieur, on ne peut pas commencer votre opération, on va finir à 4h15. Alors, dans la règle, l'infirmière, chef, peut arriver et dire, c'est dans la convention collective, ah non, nous, on ne peut pas passer 4h, même si c'est 4h15, on annule le cas. Bang, ça va être de même. C'est comme ça. Alors, tu regardes du côté des docteurs, là, eux autres, c'est un syndicat aussi, là. Eux autres, ils veulent la liberté absolue. Pourquoi c'est pas possible de demander, d'exiger d'un docteur, tu pratiques au Québec, la rémunération est excellente, elle est la meilleure en Amérique du Nord, mais non. Au Canada, on te demande d'être 5 jours par semaine à 40 semaines par année. Non, moi, je dois être libre de moi-même.
Ben, Paul Brunet, je suis déjà allé voir un show à Place des Arts, puis il n'y a pas eu de rappel. Les gens voulaient un rappel, puis il n'y a pas eu de rappel. Finalement, c'est parce que les techniciens, ils ont dit, regarde, il est à l'heure, Puis nous autres, on arrête à telle heure.
C'est syndical.
Puis il n'y en aura pas de rappel c'est après, syndical. Là, puis c'est fini, c'est nous autres qui décidons. C'est-tu comme ça que ça fonctionne?
Moi, avec mes syndicats, j'ouvrais rarement la convention collective. C'est le gros bon sens. Quand la chicane pogne, on regarde la convention. Mais ça dépend de l'entente que tu as avec tes principaux chefs de ces syndicats-là.
Oui, mais ce que j'ai décrit prend... existe, par exemple.
Oui, non, je ne dis pas ça. Je dis juste que, en tout cas, pour moi, l'organisation du travail, qu'elle soit syndiquée ou pas, pour moi, ce n'est pas un obstacle à l'innovation et à l'efficience.
Regarde, le moyen de faire quelque chose. Regardez, Mme, je vais vous donner le même exemple que j'ai vécu quand j'étais en pratique. C'est le même exemple. Moi, j'ai déjà eu dans mon département, moi, je faisais des procédures, là, c'est comme des opérations. J'ai un jeune conseiller syndical qui est débarqué dans mon département, dans mon service. Et lui, il a voulu faire une révolution parce que moi, l'entente que j'avais avec mon personnel, c'est que les pauses, on ne les prend pas à l'heure prévue dans la convention collective, 10h30. Si on est en train de faire un cas où on en commence un qui va déborder sur la cause, on le fait pareil parce qu'on ne va pas annuler les cas. Le jeune conseiller syndical s'est fait virer de bord par mon personnel, pas par moi, parce que mon personnel avait décidé de le blaster parce que ça nuisait aux patients. Là, aujourd'hui, on vit l'inverse. À chaque fois qu'il y a une occasion, on applique la convention collective. Alors, je suis d'accord qu'à un moment donné, c'est une question de relation de travail entre les cadres, les patrons, puis les employés. Mais c'est une rue à deux sens, ça, comme ils disent en anglais, là, two-way street. Oui. Et là, actuellement, il y a une rigidité quotidienne incroyable. Un autre exemple. Quand j'étais ministre, j'avais demandé à tous les PDG, tous, ils l'ont tous fait, en français, d'offrir le 12 heures. Mais ça a été refusé localement à l'époque par les syndicats. On était ouverts. Tout le monde était en faveur de ça. Et ça s'est fait dans certains hôpitaux, très peu, dont Québec. Mais c'est les syndicats qui, localement, disent non. Et aujourd'hui, dans mon hôpital, à Maisonneuve-Rosemont, il y a des gens qui veulent le 12 heures. Et ça, c'est la flexibilité totale. Le syndicat dit non.
Mais la machine, on dirait qu'elle est au service d'elle-même. Pour se protéger elle-même plutôt qu'être au service du citoyen puis du malade.
C'est ce que je disais tantôt, Richard. Ouais. On est dans une époque de « je me moi ».
Avec tout le respect que j'ai pour mes amis des syndicats, j'avais examiné la convention de la FAS qui avait des centaines de pages. J'ai pas vu une fois le mot « malade » ou « usagé » dans les centaines de milliers de mots. Tu vois, ça n'a pas de bon sens.
Oui.
Sauf un chapitre en psychiatrie, là, il fallait que tu parles de l'usager, parce qu'il est dangereux, il fallait que tu protèges la personne. J'ai déjà dit à des gens...
Il parlait de l'usager parce qu'il pouvait menacer le personnel.
J'ai dit à des gens de la CSN, comment, les gars et les filles, vous devriez commencer à parler que la raison pourquoi vous êtes ici, c'est pour soigner du monde.
Voilà. Oui.
Ça serait bien. Aussi!
Oui. Ben, c'est ça. C'est ça que je dis, moi, tout simplement, là. À un moment donné, les décisions qui se prennent devraient toujours se prendre en se disant, OK, ça me laisse pas, cette affaire-là, là. Ouais. C'est-tu bon pour le patient?
Ben oui.
Ben c'est pas de même, ça marche au quotidien. Non?
Mais tu sais.
J'en reviens, ça. Un réalisateur est en train de faire un film, il est avec ses comédiens, puis là, il y a quelque chose qui se passe. C'est hot, là. Puis ça, là, le caméraman va dire: ah, non, regarde ma convention collective. Moi, là, c'est que j'ai le droit d'aller avoir une demi-heure de pause.
Souvenez-vous.
Mets sa caméra sur la table, puis ça va fumer.
Souvenez-vous, messieurs, quand il y a eu la pénurie d'infirmières. Écoute, en 1998, avec Mme Tiquine, on parlait de pénurie d'infirmières. Mais récemment, là, après la COVID, on avait de la misère. Il y a un manque d'infirmières partout. Il y a dans certaines régions des PDG qui ont fait confiance à leur syndicat d'infirmières, qui ont dit: les filles, les gars, réglez donc les horaires. Ces filles-là, elles-mêmes, des syndiqués, ont réglé une bonne partie de la pénurie qu'il y avait et d'overtime obligatoire.
C'est ça.
Alors, il faut que tu fasses confiance à ton monde pour que le monde te fasse confiance.
Mais
c'est two-way street, comme vous dites.
Exactement. Alors là, moi, l'autre élément sur lequel je veux insister, tu sais, j'ai parlé du fait qu'à un moment donné, il faut décider si on a les moyens de faire telle affaire, puis après ça, de l'organisation du travail. C'est pas compliqué, le système de santé, mais il y a une chose que les gens doivent réaliser, c'est que c'est interconnecté. Alors, si tu as un hôpital ou un service dans l'hôpital qui fonctionne bien, là, comme par exemple l'exemple là, que Maître Brunet vient de prendre, que moi j'ai pris là, bien, lui, il est connecté dans son fonctionnement. C'est une chaîne, un hôpital. T'es malade, tu rentres, il faut que tu ailles en radiologie, il faut que tu ailles en médecine nucléaire, il faut que tu ailles à la salle d'opération, il faut que tu retournes à l'étage. S'il y a un bloc qui ne marche pas, c'est un gros Lego, là, un hôpital. S'il y a un bloc qui ne marche pas, il vient altérer tout le reste.
Mais est-ce que Santé Québec va pouvoir, justement, faire un diagnostic de...
Richard, on le connaît, là.
La question, c'est que est-ce que Santé Québec va être capable d'opérationnaliser l'affaire? Et là, Santé Québec va faire face à deux problèmes. Son premier problème, c'est le budget. Il le vit actuellement. Son deuxième problème, c'est la convention collective. Bon. Et moi, mon souhait le plus profond pour 2025, c'est que le monde syndical, qui à la sortie, on le voit là, de la signature des conventions, il recommence à aller de sa place publique en disant que c'est la fin du monde, puis c'est le bordel, puis c'est ci, puis c'est ça. Alors que si le discours changeait, bien peut-être que ça irait mieux. Mais ça irait pas parfaitement parce qu'on ne se donne pas les moyens de tout faire.
Est-ce qu'on manque d'anesthésistes, on manque de médecins spécialistes, non. Manque de médecins de famille,
non.
Paul Brunet?
Mon représentant a parlé pour moi. Bien, moi, je suis pas certain, puis je veux pas me chicaner ces chiffres. Ce que j'aime voir, c'est le projet de loi 67, Mme Lebel, et d'autres initiatives qui ont été prises pour que des pharmaciens, des travailleurs sociaux, plusieurs autres professionnels, pourquoi ça, c'est pas intégré au GAP, pour que quand j'ai besoin d'être vu par quelqu'un, ben j'ai mal à l'épaule, que je ne sois pas obligé de passer par un médecin ou un praticien avant d'avoir une prescription ou une référence. Il faut que tout ça s'intègre, et je pense que c'est une des avenues, je ne sais pas si ça va régler tout, mais c'est une des avenues qu'il n'y a pas juste les médecins qui peuvent nous aider en première ligne.
Oui, mais ça, je suis d'accord avec ça. Maintenant, le problème de cette approche-là, qui est tout à fait correct, c'est pas ça l'enjeu, c'est que là, au moment où on se parle, devine, non pas qui vient dîner ce soir, mais qui voudrait être payé ce soir. Parce qu'au moment où on se parle, il n'y a pas d'entente sur la rémunération. Et là, on retombe dans le syndicalisme classique. Alors, les pharmaciens, au moment où on se parle, là, ils n'ont pas encore de tarifs. Puis là, ils prennent le territoire, ils travaillent bénévolement parce qu'ils ont d'autres sources de revenus, mais à un moment donné, ils vont vouloir avoir une rémunération. Je vais donner un autre exemple, OK? Au moment où on se parle, là, il y a une mouvance dans le groupe des infirmières praticiennes spécialisées qui donnent des services de niveau médical, sont compétentes, sont autonomes. Mais là, il y a une mouvance chez elles selon laquelle ils voudraient voir 5 patients par jour, un maximum de 1 à l'heure. Bon, fais le calcul, là. Ça va coûter plus cher se faire voir par une infirmière au même débit qu'un médecin.
Il y a plein des centaines de milliers de Québécois qui n'ont pas accès à un médecin de famille.
Oui.
C'est-tu parce que les médecins de famille ne prennent pas suffisamment de patients? Parce qu'ils veulent avoir une qualité de vie. C'est-tu ça, là?
Je ne suis pas certain de ça. Je ne suis pas assez compétent pour vous dire. Ce que je sais, c'est que les gens essaient d'aller au GAP. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ils appellent des personnes âgées, hein, qui parfois appellent, ça prend une heure et demie, ça va à l'urgence. Quand ça ne marche pas, les affaires qu'on nous propose, les gens se rabattent à l'urgence. C'est ça qui est triste, c'est ça qui crée la première crise.
Oui.
Si on peut sortir le monde à l'urgence, notamment en allant les visiter chez eux, le CLSC de Verdun a montré que quand les médecins vont voir les personnes âgées malades, on sauve 50 % d'hospitalisation, 50 % de transport ambulancier. Les gens sont moins malades parce que quand elles tombent vraiment malades, on a besoin d'y aller. Ça, c'est 25 % de lits de moins dans les hôpitaux si on réglait cette question-là. Mais les médecins, semble-t-il, ne veulent pas aller à la maison.
Alors, pourquoi, si ça fonctionne à Verdun, pourquoi on ne dit pas « Hey, ça fonctionne là, on va prendre ce modèle-là et on va l'appliquer à l'ensemble du Québec. »
Richard, tu m'as déjà entendu dire la phrase maintenant légendaire de ma part « Ça va comme c'est bien. » C'est ça. Puis je vais t'expliquer. Quand moi, j'étais là, et à la Fédération des médecins spécialistes, et communiste, j'avais le pouvoir de... Tu sais, la réforme que moi, j'avais faite, c'était pour prendre une bonne pratique puis la diffuser dans tout le réseau. Alors moi, j'avais fait un forum sur le médecin à domicile, je pense que Maître Brunet, vous avez assisté, et le modèle dans la grande région de Montréal qui était à reproduire était celui de Verdun. Alors, il y a eu même, à la fin du forum, une consigne, tous les PDG ont dû signer, on le met en place, on embauche tant ci, tant ça, tant ci, tant ça, et ça, c'est fait. D'accord? Quand on a perdu l'élection, la FMOQ, qui est l'organisation qui représente les médecins de famille, est allée voir Daniel McCann, puis elle a dit, nous, on ne veut plus rien savoir de ça, t'enlèves les tarifs. Interview Geneviève Deschaine, puis elle va t'expliquer comment, en 2018, la CAQ a accepté, je ne veux pas faire de politique, c'est pas ça, là, mais a accepté d'acquiescer à la FMOQ et a enlevé les tarifs qui permettaient au corps médical de faire ce genre de pratique-là.
Bon,
alors c'est un autre exemple de syndicalisme malsain.
Là, ça me ramène au livrable. Okay? C'est ça que vous devez faire. Vous devez faire ça pour que le système fonctionne. Vous devez faire ça. Puis c'est pas vous qui allez décider. C'est pas vous, telle corporation, telle association, tel syndicat. C'est ça que vous devez faire pour que ça fonctionne. Puis là, après ça, on va regarder si vous le faites. Livrable.
Oui.
Rédition de compte.
Rédition de compte. Mais j'ai vu combien de fois dans la loi 160, puis encore une fois dans le malheureux projet de loi 15 à certains égards, qu'on exige à certains moments des redditions de compte, mais tu ne peux pas devoir rendre compte si on ne t'a pas fixé d'abord des objectifs que tu as acceptés et ensuite l'autonomie pour y parvenir. L'exemple du CUSUM. On n'a pas donné l'autonomie au CUSUM pour modifier sa politique pour contrer la maltraitance. On lui a fait faire la job, puis après ça, on a gardé l'autorité. Ça s'appelle déconcentré et non décentralisé. Puis on va le regarder, nous autres, à Québec. Ça, c'est deux gangs d'experts. 100, ouais. 200, 300 000 piastres par année, qui regardent la même affaire.
Ça, c'est-à-dire on demande aux gens sur le terrain de faire quelque chose, mais on leur attache les deux bras dans le dos en disant, puis attention, les blâmes si c'est
pas fait. Au moins une centaine d'exemples comme ça dans la loi actuelle.
Mais attention, ça, cet exemple-là, c'est un exemple de l'exécution d'un livrable, mais il faut commencer par définir le livrable.
Oui.
Et le problème qu'on a actuellement, c'est que le livrable n'est pas défini. Alors, prenons l'exemple des médecins de famille, puisque c'est de ça qu'on parlait il y a un instant. Les statistiques que le gouvernement ne met jamais sur la table, je le lui reproche, il devrait arriver puis mettre ça publiquement sur la table, ça se modélise, la première ligne. Là. Alors, quand on la modélise, on constate qu'il y a la moitié des médecins qui font ce qu'on leur demande et plus, et des fois beaucoup plus. Il y en a un quart qui sont un petit peu en bas de cet objectif-là, un seuil, puis il y en a un quart qui sont très loin. Alors, ça, c'est livrable. Il y a un livrable, là. Mais pourquoi on ne met pas en place une règle qui fait en sorte que tout le monde doit se rendre au seuil? Vous pouvez être des workaholics, là. Vous pouvez travailler comme des fous, faire de l'argent, là. C'est pas grave. Mais au moins, il y a un plancher, là, un seuil au-dessus duquel vous devez aller.
Oui.
Parce qu'on sait qu'à ce seuil-là, la population au complet va être prise en charge. Mais le gouvernement n'applique pas ses lois. Est-ce que Santé Québec va appliquer ses lois auxquelles ils ont accès? Alors, ça, c'est le livrable
des choses.
Alors, le livrable, il est défini en première ligne. Il est à être défini, par exemple, pour les IPS. Il est à être défini dans plusieurs secteurs. Et là, ça devient une question de politique. Est-ce que les politiciens sont capables d'affronter le mur syndical en plus du mur budgétaire?
Après la pause, on va se donner 10 minutes pour essayer de tenter de proposer des solutions possibles. Revenez nous voir.
À Cube, c'est la revue d'année de Richard Martineau.
Dernier bloc sur le système de santé, toujours avec Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, et Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé et collaborateur à l'émission. Gaétan, faut parler de l'éléphant dans la pièce. T'aimerais peut-être pas ça. Mais moi, il y a des gens qui me disent, depuis que tu fais du commentariat, s'il a toutes les solutions, s'il les connaît toutes, pourquoi il ne les a pas appliquées quand il était ministre de la Santé?
Ah, ben, la réponse, elle existe, je l'ai donnée. La réponse,
il manque un mandat.
Ben, d'abord, la réforme que j'ai faite, je vais m'amuser quand même, parce que c'est Noël.
Il faut s'amuser,
là. Christian Dubé tient les mêmes propos que moi. Puis quand moi, je disais ça prend deux mandats pour mettre tout ça en place, il dit la même affaire de sa réforme, qui est la même chose que la mienne, mais avec un seul employeur plutôt que 32. Ça, c'est pour m'amuser. Maintenant, les solutions, elles existent. Il y a une chose que je ne pouvais pas faire. Je n'ai pas le pouvoir sur le budget. Un ministre de la Santé, qui s'appelle Christian Dubé, Barrette ou un autre, peu importe, là, il fait avec le budget qu'on lui donne. Alors là, il y a une contrainte qui est là. Et il y aura toujours cette contrainte-là. La deuxième contrainte, c'est qu'il y a des choses qui ont été mises en place, puis c'est juste que ça prenait deux mandats pour le faire. Je te donne un exemple. Moi, j'avais commencé l'informatisation de la santé. Ça a été arrêté. Qu'est-ce que je te dis? Ça prend deux mandats à faire ça. Ça prend 8 ans. Puis quand Christian Dubé arrive avec sa nouvelle solution, ça, lui, il nous dit que ça prend 10 ans. Fait qu'il y a plein de choses qui ont été faites et qui n'ont pas été vues. Maintenant, il y a une chose qui est importante. Par exemple, pour ce qui est des médecins, moi, j'ai fait passer des lois sous un gouvernement qui ne les a pas appliquées. Mais elles sont passées, elles sont mettables en application, elles sont à la disposition.
Donc, c'est la politique
qui
a bloqué.
Je le dis ouvertement, l'ennemi public numéro un de tout système, de quoi que ce soit public, éducation, santé, n'importe quoi, c'est la politique. Parce que les politiciens vont toujours hésiter à faire de la peine à quelqu'un.
Ben oui.
Même s'ils ont des lois qui vont résoudre le problème, sans faire perdre un vote. Alors moi, c'est ce que j'ai vécu. Ces lois-là, là, ils sont là, ils ne sont pas appliqués. Ils n'ont pas été appliqués dans le premier mandat de la CAQ. Ils ne sont pas appliqués maintenant. Mais tiens-toi bien, mon cher Richard, elles sont dans la loi 15 et elles sont à la disposition de Santé Québec, qui est maintenant le proverbial bouc émissaire. Mais, est-ce que Santé Québec va le faire?
Mais Maître Paul Brunet, ça regarde mal, là, parce que 1,5 milliard de dollars de coupes dans le système de santé, puis il nous dit que ça n'affectera pas les soins.
C'est impossible.
Come on, là. Oui. Vraiment, franchement.
Tu sais, des fois, dans ma ville, le maire disait, on coupe 1 million, trouve 1 million. Je réunissais chaque direction de service pour dire où tu vas couper. Coupe pas d'un service aux citoyens parce qu'ils avaient la méchante habitude de vouloir couper là où ça faisait mal aux citoyens pour écœurer les élus.
Ben oui.
Alors, on allait voir dans les projets l'informatisation jusqu'à un certain point, l'administration, les adjointes, les directeurs adjoints. Ça pouvait être coupé. Mais il faut voir, il faut être méticuleux, il faut aller voir. C'est ce que j'ai reproché un peu avec toute l'affection et le respect qu'on lui doit. Santé Québec devrait aller voir les PDG. Là où tu veux couper, on va les regarder ensemble. Parce que c'est pas vrai qu'il y a juste dans les services qu'on va réussir à trouver. Couper 3,65% d'heures travaillées partout across the board,
Mais peu les coupeurs vont être faites avec un scalpel et avec finesse ou avec une chaîne, ça?
Ben, il faudrait qu'elles se fassent avec un scalpel, mais elles vont exister pareil. Mais toujours pour prendre la métaphore d'une ville, ben, prenons la ville de Montréal. Quand bien même on descend avec le scalpel sur le terrain, hein, ben, il va manquer des stations de métro. Et la station de métro passe par un financement. Alors, il y a le discours qu'on comprend. C'est comme les transports en commun à Montréal. Ce n'est pas un mammouth, ça. C'est juste une organisation qui n'est pas financée à la bonne hauteur parce que on n'acceptera pas demain matin de mettre de l'argent là-dedans collectivement. Mais le scalpel, oui. Mais encore, je vais finir dans la métaphore. Le scalpel, là, ça, c'est comme le chemin Camillien Houd. Tu fais une consultation, puis tu prends une décision contraire.
Ben oui.
C'est comme Santé Québec coupe, mais là, tu as pris une décision, puis on traverse ça. La maison des fous, là, elle est là et elle est politique. C'est pas sur le terrain à ce point-là, la maison des fous.
C'est possible de dépolitiser la santé?
Ben, il faut avoir des conversations comme on a là.
C'est tellement important, la santé, qu'on va la retirer
des
politiciens. C'est possible, ça?
C'est pour ça que j'ai un peu confiance qu'à un certain point à Santé Québec, où Mme Biron a décidé. Il a promis, dans ses 4 priorités, qu'elle regarderait les problèmes à leur source plutôt que de les patcher comme le politique a souvent fait dans l'histoire et depuis que je suis porte-parole.
Est-ce que dans son équipe, il y a la connaissance et la compétence?
Parce que la santé, le gros problème, je pense, la santé, c'est sur le long terme. La politique, c'est sur le court terme.
Toujours.
Je pense à ta prochaine réélection.
Toujours.
Puis tu t'en vas là, puis quand le vent souffle, puis tourne, tu t'en vas par là. Puis fait que là, c'est-tu possible de retirer la santé des mains des politiciens?
Il y a des pays qui l'ont fait. La Hollande le fait. La Hollande, c'est pas compliqué. La Hollande lève les impôts puis donne ça aux compagnies d'assurance gérées. Alors, il y a des pays qui le font. Mais nous, on a bien de la misère à sortir de la politique. Puis je te le dis, Richard, ma grande déception de 2024, c'est la naissance de Santé Québec et 2 semaines après, le gouvernement intervient.
Ben oui. Écoute, puis dis à Santé Québec, vous allez faire les
jours. Vous avez pris une décision et pas bonne. On l'aime pas.
Écoute, quand je te dis Québec, c'est censé justement être indépendant de la politique.
Je veux pas faire du légalisme, mais dans la loi, il n'y a rien qui dit que le ministre ou sa gang ne peut pas intervenir.
Parce que
Santé Québec n'est pas autonome. Je m'excuse, les gars, de vous décevoir.
Non,
mais c'est comme ça que la loi est faite.
Mais c'est juste que c'est présenté comme si... Monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute actuellement, dans leur tête, Santé Québec, c'est une organisation paragouvernementale autonome.
Moi, la façon dont on l'a vendu, c'est ce que je pensais. Moi. Ouais. C'est ce que je pensais qu'il y avait une certaine indépendance.
Moi aussi.
Voilà.
Mais même, je me suis déjà plaint que j'espérais que les sous-ministres ne seraient pas des belles-mères pour Santé Québec. Mais là, M. Paré est intervenu. Mais là, cette fois-ci, je suis d'accord avec lui. Coupez pas d'un soin à domicile. C'est de la prévention. Monsieur. C'est d'empêcher et d'éviter que du monde se ramasse à l'urgence, des personnes âgées, entre autres.
C'est-tu possible, c'est-tu un rêve complètement fou de dire on pourrait peut-être avoir des soins à domicile? C'est-tu quelque chose qui est complètement
fou? Okay, ça, c'est intéressant parce que c'est un sujet très difficile. Je vais dire pourquoi. Les libéraux avaient augmenté de beaucoup les heures de services données à la population et la CAQ a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ils ont été très bons. Et ça me fait conclure que l'évaluation quantitative, qualitative là, des besoins sont mal faits. Moi, je me souviens, là, quand j'étais là, j'avais vu les chiffres. Le 4000, l'assurance autonomie de Régent Hébert, qui était une fumisterie totale, là, parce que ça n'existait pas une assurance autonomie, là. À l'époque, on évaluait que ça pourrait coûter jusqu'à 4 milliards de plus. Hey, on s'est rendu à pas loin de 3 milliards de plus, on ne voit pas de changement. Ce qui veut dire que même moi, à l'époque, les données que j'avais étaient imprécise, trop inexacte pour bien évaluer la situation. Là, actuellement, on navigue à vue. Puis à vue, ça veut juste dire si on navigue en fonction des sondages et des articles de journaux. On l'a mal évalué, ça. Alors que du côté des hôpitaux, tout ça, on sait exactement ce qu'il nous faut. La première ligne, on le sait. La pharmacie, on le sait. Mais le maintien à domicile, on l'a mal évalué.
L'ancien ministre Couillard m'avait dit, Paul, j'annonce 50 millions de soins à domicile. Je m'en vais dans mon comté. Je dis, on va arrêter au CLSC, voir comment ça marche. Je dis au directeur général, qu'est-ce qui arrive avec l'argent là, pour les soins à domicile? Je ne sais pas, il dit, on a reçu 50 000, nous autres. Où est allé l'argent? Pourquoi on ne pourrait pas envoyer l'argent directement au CLSC à partir des clients qu'on a à desservir? Ça se perd dans la bureaucratie.
Bureaucratie politique. Merci. Je dois le dire, un des gros problèmes du système de santé, c'est l'accès aux soins. Puis il faut le rappeler, moi, une fois que j'étais rentré à l'hôpital, j'ai été pris en charge de façon extraordinaire. Les gens qui travaillent là-bas étaient fantastiques. C'est l'accès.
L'accès se règle moyennant des actions plus fermes.
Richard, si tu as des problèmes, tu peux devenir membre du Conseil pour la protection des malades. On va te défendre.
Merci beaucoup à vous deux. Joyeuse fête. Passez une belle année. Puis je suis sûr qu'on va se reparler en 2025 du maudit système de santé. Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé, collaborateur à l'émission. Merci beaucoup.